With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nous sommes en guerre.
Moi, je, personnellement, je m'étouffe.
Accélère! Ils sont au genre du pognon!
Merci.
Vous laissez la star tranquille.
Les jeunes Chinois condamnés à travailler, Kim Jong-un convoqué par la justice japonaise ou encore des nouvelles images impressionnantes des inondations à New York. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et pour bien terminer la semaine, on est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Allez, on commence les actus aujourd'hui avec une enquête parue dans Mediapart cette semaine et qui me semble très intéressante. Le régime syrien utilise la campagne de vaccination contre le coronavirus pour récolter des informations et traquer ses opposants. Je vous explique. En fait, la Syrie aujourd'hui, c'est un pays un peu coupé en deux avec la guerre civile. D'un côté, on a environ 70% du pays qui est gouverné par Bachar el-Assad, qui donc s'accroche au pouvoir malgré toutes ces années de combat, qui est accusé d'ailleurs de crimes contre l'humanité en raison de bombardements contre sa population et l'utilisation d'armes chimiques. Et le reste du pays est contrôlé par une autre force, par les forces démocratiques syriennes, près de la frontière avec la Turquie. Et c'est en fait une alliance de plusieurs groupes de personnes, dominés notamment par les Kurdes, qui est un peuple arabophone qui n'a pas d'état officiel aujourd'hui. Bref, depuis de nombreuses années, ces deux parties de la Syrie sont donc en conflit et le président Bachar el-Assad fait tout pour reprendre le contrôle de cette zone au nord. Alors, quel est le rapport avec la vaccination contre le coronavirus, me direz-vous? Eh bien, Mediapart explique que la campagne de vaccination en Syrie est dirigée par l'Organisation Mondiale de la Santé, mais elle se fait en collaboration avec le régime syrien de Bachar el-Assad. Or, en vaccinant les habitants, eh bien, Bachar el-Assad en profite aussi pour récolter toutes les données disponibles sur ses opposants potentiels dans le nord du pays, et donc, il récolte donc pour chaque personne vaccinée notamment l'adresse, la situation familiale ou encore le numéro de téléphone. Alors logiquement, depuis qu'ils ont appris ça, les opposants au régime qui se sont fait vacciner ont peur de se faire traquer, voire se faire arrêter et tuer. L'Organisation Mondiale de la Santé a confirmé ce partenariat avec le régime syrien et affirme ne pas savoir ce que deviennent les données après avoir envoyé les certificats de vaccination au ministère de la Santé syrien. Autrement dit, ça n'a pas vraiment rassuré les opposants. Si jamais vous voulez plus d'informations sur la situation sur place, je vous mets l'article de Mediapart directement en description. Allez, on continue direction la Chine avec le sujet à la une aujourd'hui que je trouve extrêmement intéressant. Le gouvernement chinois limite de façon très importante les loisirs des jeunes. C'est une tendance de fond en fait depuis plusieurs années, mais tout récemment, la Chine a pris de très grosses mesures et donc aujourd'hui, on va voir pourquoi. En fait, depuis plusieurs mois, un mouvement de révolte chez les jeunes se développe sur les réseaux sociaux chinois et ce mouvement vise principalement la culture du travail et des études très intenses qui sont véhiculées par le pouvoir chinois. Comme le décrit très bien cet article du Monde sorti il y a quelques jours et intitulé « La jeunesse chinoise réclame un droit à la paresse ». Pour ces jeunes, en gros, il y a aujourd'hui en Chine trop de pression à travailler très dur, à apprendre, à vouloir absolument finir et être le meilleur, pour au final finir par trouver un travail avec des horaires qui sont très lourds et des salaires qui sont jugés bien trop faibles. Le truc, c'est que pour beaucoup de jeunes chinois, cette culture comme ça véhiculée par le gouvernement à travailler toujours plus semble procurer l'effet inverse. Beaucoup se découragent et sont tentés donc de beaucoup moins travailler et de profiter davantage de leurs loisirs. Conséquence, pour ces jeunes, passer plus de temps sur des plateformes de discussion en ligne, jouer aux jeux vidéo ou encore regarder des émissions de télévision comme de la télé-réalité, eh bien c'est devenu une forme de refuge pour éviter donc les contraintes contraintes du gouvernement, et c'est presque même devenu au fil du temps une forme de contestation, une sorte de vent de révolte. Et cette tendance a même un nom, ça s'appelle le Tangping, désolé pour la prononciation, mais ça peut se traduire par rester allongé. Quelles mesures a pris la Chine pour faire face à cette tendance? Déjà, comme elle le fait souvent, la Chine a censuré immédiatement sur les réseaux sociaux tous les mouvements contestataires qui peuvent émerger. Et par exemple, donc, des hashtags comme le hashtag Tangping ont été interdits sur l'internet chinois et sur les réseaux sociaux qui sont utilisés en Chine. Mais au-delà de ça, la Chine a donc pris des mesures plus spécifiques pour limiter les divertissements. Première mesure marquante, elle concerne les jeux vidéo. Les moins de 18 ans avaient déjà l'interdiction de jouer aux jeux vidéo en ligne entre 22h et 8h du matin. Et bien désormais, ils pourront seulement jouer 3 heures par semaine maximum. Et oui, vous avez bien entendu, si vous êtes mineur en Chine, vous allez pouvoir jouer seulement 3 heures par semaine. Et concrètement, a priori, si c'est bien mis en place, eh bien les mineurs pourront jouer uniquement de 20h à 21h, le vendredi, le samedi et le dimanche. La deuxième mesure prise par le gouvernement chinois cette semaine, c'est l'interdiction de plusieurs émissions de télé-réalité. Derrière ça, il y a la volonté du gouvernement de couper ce divertissement, donc, mais il y a aussi une volonté d'éviter des phénomènes d'idolâtrie pour certaines personnalités et certains candidats. D'ailleurs, plus largement, la Chine s'attaque directement à plusieurs stars du divertissement qui pourraient véhiculer des valeurs contraires à celles du régime. Récemment, par exemple, plusieurs stars en Chine ont vu leurs comptes supprimés sur les réseaux sociaux, et c'est le cas notamment de Zhao Wei, l'une des actrices les plus célèbres du pays. Bref, c'est un mouvement en Chine qui montre à la fois une vraie détresse d'une partie des jeunes chinois qui font face à cette pression très très importante au niveau du travail, et de l'autre côté, eh bien, ça illustre aussi une censure et un durcissement des règles du côté du gouvernement. Pas sûr que ce soit donc tenable sur le long terme, ça me semble en tout cas essentiel et assez intéressant à évoquer aujourd'hui. Allez, on passe à la rubrique des actualités en bref, une rubrique d'ailleurs qu'on va modifier la semaine prochaine. On a pris le temps de parler ces derniers jours à beaucoup d'entre vous pour comprendre comment l'améliorer, comment dans cette petite rubrique faire en sorte d'avoir les actus présentées de la meilleure façon possible. Bref, on en reparlera du coup la semaine prochaine, mais on commence par cette première actu. La tempête Ida ravage l'est des États-Unis depuis une semaine, on en parlait hier. Le dernier bilan fait désormais état d'au moins 44 morts dans la ville de New York et ses environs, qui sont frappés par d'énormes inondations qui ont pris les habitants par surprise. La tempête a ensuite touché la ville de Philadelphie, qui est au sud de New York, provoquant là aussi d'importantes inondations. Et la rivière d'ailleurs qui traverse la ville est à son plus haut niveau depuis 152 ans. Le président américain Joe Biden s'est en tout cas rendu aujourd'hui en Louisiane, qui était le premier état à avoir subi les ravages de cet ouragan, qui est devenu ensuite donc une tempête et qui a détruit en Louisiane de nombreux bâtiments et prive toujours actuellement des centaines de milliers de personnes d'électricité. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, il y a Marseille. Alors là aussi, on en parlait dans notre débrief des actus du jour hier. Le président français a passé un peu plus de 2 jours dans la ville pour faire différentes annonces et rencontrer différentes personnes. Et il a notamment fait des annonces concernant l'éducation qui ont beaucoup déçu les enseignants. En gros, je vous la fais courte, mais les écoles de Marseille sont très souvent en mauvais état. 174 établissements scolaires ont besoin d'être rénovés pour que les élèves puissent tout simplement étudier correctement. Or, le président de la République a annoncé des aides, mais sans promettre de montant précis pour ces aides. Et donc, logiquement, ça fait peur aux enseignants qui jugent que le président ne s'est pas assez engagé sur le sujet et qu'on risque de manquer de moyens dans les prochaines semaines. Affaire à suivre, donc on verra ce qu'il en est dès qu'on aura peut-être éventuellement plus de détails. Alors, on termine ces bref, avec une info qu'on n'avait pas du tout vu venir, Kim Jong-un, le leader nord-coréen, est convoqué par la justice japonaise le mois prochain. En gros, 5 personnes ont porté plainte contre la Corée du Nord, puisque entre 1959 et 1984, ils sont partis habiter dans le pays, pensant qu'ils vivraient à ce moment-là une vie de rêve en Corée du Nord, alors que finalement, pas du tout. En fait, à l'époque, la Corée du Nord, pour attirer des nouveaux habitants, avait mené une vraie campagne campagne de propagande décrivant le pays comme le paradis sur terre, etc. Et suite à cette campagne, près de 93 000 personnes avaient décidé de quitter le Japon pour déménager en Corée du Nord. Or, ils n'ont jamais pu repartir. Les 5 personnes en fait qui portent plainte aujourd'hui, elles font partie de ceux qui ont réussi à s'échapper du pays. Et ils réclament donc aujourd'hui près de 4 millions d'euros de compensation. Bref, ce procès est quand même très symbolique, hein, puisqu'on se doute bien que Kim Jong-un ne viendra pas au Japon pour assister à ce procès, mais ça permet quand même de rendre public cette histoire. C'est aussi une histoire qui est assez méconnue, donc ça me semblait assez intéressant de vous en parler aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.